tu vois, de faire le point, de regarder un peu en arrière et puis de prendre de bonnes décisions pour l'année prochaine. Alors, c'est elle qui m'a appris à faire ça, parce que c'est vrai que moi, je passais l'année, pourquoi on fait une fête? Ça sert à quoi tout ça? Tu vois, moi, j'étais un peu dans cette team-là, il n'y a rien qui change, le temps continue de s'écouler, on a juste pris une année, je suis juste un peu plus vieux, mais il n'y a rien qui change. Mais finalement, c'est vrai que moi, j'ai appris à faire ça et c'est un temps intéressant quand même pour faire le point sur notre vie personnelle, où est-ce qu'on en est personnellement, sur notre vie de couple, si tu es en couple, sur notre vie familiale, si tu as une famille, voir un peu comment les choses évoluent avec tes enfants. C'est intéressant de voir aussi de pouvoir faire le point sur ta vie spirituelle, personnelle avec Dieu. Où est-ce que tu en es dans ta relation personnelle avec Dieu? Où est-ce que tu en es dans ton engagement dans l'église locale? Qu'est-ce qui se passe pour toi exactement? Et quand tu commences à prendre une petite feuille, tu commences à prendre l'agenda et que tu commences à faire mois par mois et tu regardes, voilà, est-ce que j'ai vu Dieu à l'œuvre dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail au mois de janvier? Ah, peut-être pas beaucoup. Est-ce que je l'ai vu à l'œuvre au mois de février? Et tu passes mois après mois, tu te rencontres et tu commences à faire le bilan. Et tu peux faire un bilan sur ce qui s'est passé pour toi dans ta vie. Et c'est intéressant parce que tu vas voir qu'il y a parfois un décalage entre ce qu'on dit, ce qu'on veut, ce qu'on désire, nos attentes et ce qui se passe réellement. Tu vois, tu peux projeter beaucoup de choses. Je pense à Papa, là, hein, qui avait projeté beaucoup de voyages. Elle dit, je vais aller prêcher de par le monde entier. Il a prévu beaucoup de voyages et la santé a été touchée, il a dû tout annuler. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et on a beau s'attendre à certaines choses, avoir de grands rêves, finalement, eh bien, tout est incertain, n'est-ce pas? Et je suis sûr que si vous faites un retour en arrière, vous vous rendez compte qu'il vous est arrivé des choses cette année, vous n'auriez pas imaginé qu'elles vous arrivent. Vous me disiez, bon, bah, vous pouvez vous dire, bah, non, là, ce n'est pas possible. Je ne m'attendais pas à ça dans ma vie. Peut-être c'était une claque. Côté négatif, tu vois, une épreuve, quelque chose de difficile. Peut-être c'était quelque chose de réjouissant. Tu t'attendais pas à une telle bénédiction dans ta famille ou alors dans ton travail. Et là, tu te rends compte que, ah, il y en a un qui est souverain. Il y en a un qui est souverain. Et il y a eu cette pensée lors d'intercession ce matin, c'est Dieu est assis sur son trône. Ça veut dire quoi que Dieu est assis sur son trône? Ça nous parle de sa souveraineté. Ça nous parle de celui qui est et qui est en dehors de tout, en dehors du temps, en dehors de nos circonstances et qui regarde et lui, rien ne lui échappe. Et finalement, on se rend compte que quand on voit ce Dieu-là qui est en haut, qui connaît toutes choses, eh ben c'est intéressant, intéressant de pouvoir lui confier nos vies, pouvoir lui confier nos cœurs, lui confier nos attentes, lui confier voilà tout ce qu'on peut projeter pour l'année prochaine et se dire, Seigneur, voilà, voilà ce que moi je pense, voilà ce que moi j'envisage, voilà ce que je compte mettre en œuvre, mettre en pratique, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, je te remets tout. Parce qu'au final, il y a tellement de choses qui vont m'échapper. J'ai beau tout programmer, mais tellement de choses peuvent me glisser entre les mains et je préfère que tu sois le maître et que tu puisses régner sur ma vie. Je vous donne un petit exemple concret de ce qu'on a vécu ici à l'église. Alors, ça s'est passé sur 2 années, mais vous vous souvenez, on vous a beaucoup parlé de ça, de ce travaux qu'on a eu dans la maison qu'on a achetée qui a brûlé. Et avec papa, on était hier ou avant-hier dans la voiture ensemble, et je lui disais, tu te rends compte quand même que cette maison, ben, on l'a achetée, c'était une opportunité parce qu'il y a un projet, parce qu'il y a une vision, parce qu'on pense, voilà, que ça peut être un potentiel pour l'Église, pour faire tellement de choses. Et voilà, avec toute l'équipe là, on a pris la décision de pouvoir acheter cette maison. Elle a pris feu. Et vous savez, c'était une année où on avait réclamé beaucoup de feu. On était là dans l'Église, on disait, Seigneur, envoie ton feu! Envoie ton feu, Seigneur! Envoie ton feu! On priait ça tous les mercredis, tous les lundis. J'ai arrêté de prier ça, je vous le dis. Hein. Là, je dis, Seigneur, envoie ta colombe, la paix, le calme. S'il te plaît, le feu, c'est bon. Et puis, il y a le feu qui est tombé sur cette maison et on avait fait un groupe sur WhatsApp et on l'avait appelé la flamme du 192. Tu vois, parce que la flamme l'avait consumé. Et finalement, on avait presque fini les travaux. On avait fait le minimum avec le peu d'argent qu'on avait pour que ce soit habitable. Ça a été une catastrophe. Ça a mis 1 an. Ma femme en a eu des cheveux gris à gérer ce dossier-là avec les assurances. C'était compliqué. Mais finalement, grâce à l'intervention de l'assurance, on a pu faire des travaux qu'on n'aurait jamais pu envisager. C'est intéressant, ça. Et en plus, au moment où on l'a acheté, c'était vraiment propice. Parce qu'avec l'augmentation des taux, vous savez ce qui se passe, c'est compliqué. Ça veut dire que le coût du crédit aurait été bien plus élevé pour l'Église. Et là, finalement, un super taux, la maison entièrement refaite. Au final, une épreuve se transforme en bénédiction. Waouh, ben ça c'est notre Dieu. Parce que moi, si j'avais su que la flamme allait arriver, que les épreuves allaient être aussi intenses, j'aurais pas signé, tu vois. Je me suis dit, je suis bien dans mon confort, je suis tranquillement assis, moi je ne signe pas pour ça. Moi je suis bien à l'église en faisant des arcs-en-ciel, à louer le Seigneur, mais l'épreuve ça ne m'intéresse pas trop là. Tu vois, il y a certaines épreuves que tu n'aurais pas signées. Et pourtant, tu affrontes cette situation, tu mets ta foi en action et là tu ressors grandi, transformé, changé. Voilà, il n'y a que Dieu qui peut maîtriser ça, avoir ça entre ses mains. Alors, il y a eu plusieurs lignes directrices cette année qu'on a suivies. On a suivi vraiment une pensée qui était la suivante au début de l'année passée, c'était la professionnalisation. Il faut se professionnaliser dans tout ce qui est fonctionnement, fonctionnement administratif, fonctionnement de l'Église, mettre des choses en place. Donc, ça a été un travail qu'on a fait tout au long de l'année et qui n'est pas terminé. Ensuite, on a eu cette pensée qui était que il y avait cette image que nous sommes comme des vases et que Dieu désire nous remplir et que finalement, parfois, il y a un couvercle et on met le couvercle. Tu vois, on dit, Seigneur, toi, tu veux me remplir, mais moi, ce n'est pas mon moment. Tu vois, je suis un peu fâché contre toi, il y a des problèmes, il y a des circonstances, c'est difficile, ben, je mets le couvercle. Ce n'est pas le moment, Seigneur. Je préfère aller bouder dans mon coin. Ou alors peut-être que c'est juste que tout va bien pour toi. Donc, si tout va bien pour toi, Seigneur, je n'ai pas besoin de plus, je suis confortable là, actuellement. Ma vie me va bien, je suis béni, tout va bien, ben, je n'ai pas besoin de plus. Tu vois, ça peut être le couvercle, ça peut être toutes sortes de pensées, de raisonnements qui t'empêchent finalement d'aller plus loin dans ta vie spirituelle et qui te limitent à un état, eh bien, finalement, ça ne bouge pas trop. Tu vois, c'est le lac, il n'y a pas trop de remous. Ensuite, il y a eu cette troisième pensée qui était ce champ de blé. Alors ça, c'est moi qui avais vu cette image en début d'année pour l'Église. C'était un champ de blé avec différentes tiges, hein, pas les champs de blé aujourd'hui modifiés génétiquement, tous à la même hauteur, tous la même couleur, le même diamètre de grain. C'était des blés différents, différentes hauteurs, et ça montrait notre diversité. On est tous différents. On a la même nature, on est tous du blé, mais on est différents. On est tous citoyens, co-citoyens du royaume de Dieu, mais on n'est pas tout à fait pareil. Par contre, on a la même nationalité céleste. Ça, c'est intéressant. Et que je voyais ce vent de l'esprit qui souffle sur ce champ et tout le blé, imaginez ça, se couche dans la même direction. Et ça nous montrait, voilà, ensemble, on doit aller dans la même direction. Et ça prend du temps. Parce qu'à un moment donné, Dieu souffle sur l'un, sur l'autre, c'est bien les choses individuelles. Mais quand Dieu souffle sur toute l'Église, c'est différent. Et ensuite, il y a eu cette image qui complétait celle-ci, c'était que lorsqu'il y a ce souffle, eh bien, les grains se détachent et vont ensemencer les choses qu'il y a derrière. Donc, nous sommes là pour ensemencer le monde. Amen. Alors, ça, c'était les points clés qui nous ont portés durant toute cette année. On a entendu plusieurs prédications. Je vous rappelle la dernière en date, celle de la semaine dernière, qui nous parlait de la lumière en ces temps de Noël. Tu es la lumière dans les ténèbres. Ça nous a rappelé qu'il y a quelque chose de spécial en nous. Ensuite, on a eu la prédication d'Élise qui nous a parlé de ces temps où on est parfois seul, où Jésus lui-même a connu la solitude face au calvaire, il était tout seul. Même ses disciples, ses plus proches, Jamin n'était plus là, le Père l'avait abandonné. Il était tellement seul face à sa difficulté, face à l'agonie, qu'il a failli en mourir. Vous voyez, son âme complètement retournée, chamboulée. Incroyable. Et elle nous a dit, parfois nous sommes seuls, n'est-ce pas ? On a beau être là dans le culte entre frères et sœurs, mais on est tout seul face à l'épreuve. On prie les uns pour les autres, mais ce qu'on ressent, on le ressent, c'est personnel. Ah ! Intéressant, n'est-ce pas ? Alors, on a entendu ça. Ensuite, on a entendu parler de... On a beaucoup parlé de marcher dans la victoire. Est-ce que vous avez mis en pratique de marcher dans la victoire ou pas trop ? Non ? Marcher dans la victoire, c'est que Dieu t'accorde une victoire, mais c'est à toi de te mettre en marche. Si vous avez dit, c'est déjà acquis spirituellement, mais ce n'est pas encore. C'est un paradoxe. C'est qu'il y a des choses que je vis déjà et d'autres qui me sont acquises, mais je ne les ai pas encore totalement. C'est déjà, mais pas encore. C'est le paradoxe de l'Évangile. Le royaume de Dieu s'est déjà révélé, mais il n'est pas encore. On est dans les temps où il n'est pas encore totalement installé sur la terre. Mais un jour, Jésus viendra et régnera, et tous genoux fléchiront. C'est ce que la Bible nous dit. Personne ne pourra nier qui est Jésus. Intéressant, ça aussi. Alors, nous marchons déjà dans la victoire. Nous sommes déjà dans la victoire, mais nous devons activer les choses. On travaille avec Dieu. On a parlé aussi de Élie. Élie, pour faire un lien avec la prédication d'Élise, qui Élie, un homme de Dieu, un homme qui a été poussé par Dieu, qui était oint, qui a vraiment fait des grandes choses, qui a entendu la voix de Dieu et qui s'est retrouvé sous son petit arbre, quasiment en dépression. Et il a dit quoi? Il a dit, eh bien, il vaudrait mieux que je meure. Ah, peut-être que tu es passé dans une année où à un moment donné, tu t'es dit, Seigneur, malgré, je reconnais qui tu es, je reconnais ta grandeur, je reconnais que tu es ce Dieu, tu as fait des choses dans ma vie, mais actuellement, c'est impossible pour moi d'affronter ces situations. Il vaudrait mieux que je meure. Et je sais que dans cette salle, il y a des personnes qui sont réellement passées par la vallée de l'ombre de la mort et qui sont pourtant toujours assis ici. Et bien ça, c'est un témoignage de personnes qui ont su avoir confiance en Dieu dans les épreuves. Ils ont su avoir confiance en Dieu là où tout le monde se serait arrêté. Ils ont dit, Seigneur, voilà, je reconnais ce que je vis, mais je m'attends à toi et je crois en toi, tu es souverain. Waouh, quelle confiance en Dieu. Et bien si tu es dans des situations comme ça, je vous ai parlé aussi de cette transparence, eh bien, va parler à ces personnes-là. Pose des questions, renseigne-toi. Sandy, elle nous a parlé du fait de pouvoir confesser les choses. Que parfois, tu sais, il y a certaines choses dans notre vie qui sont devant Dieu, c'est pas très clair, c'est pas très net. Et finalement, c'est aussi un blocage. Un blocage à ce que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu puisse s'accomplir totalement dans ta vie. Et que parfois, il faut savoir dire les choses. Il faut pouvoir prendre quelqu'un et confesser son péché. Et dire, voilà, je te le dis pour que tu l'entendes, parce que toi, tu vas l'entendre, le malin va l'entendre, et maintenant, eh bien, je me mets dans ma position d'enfant de Dieu, et à partir d'aujourd'hui, je retranche ce qui est mauvais, et je vais marcher dans la victoire en tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'est tout ce qu'on a entendu. Et là, je fais un résumé des quelques mois passés. Alors, la question, c'est, est-ce que toutes ces choses ont porté du fruit concrètement dans notre vie? Ça, c'est une bonne question. Je vous rappelle qu'on a eu le mariage de... Jason et Mallory, pardon, excusez-moi. Hein. Vous voyez, je dois prier, j'ai un axe d'évolution, c'est que mon père oublie tous les prénoms, j'oublie tous les prénoms, c'est héréditaire. Ça fait déjà 10 ans que je me bats contre ça, mais l'hérédité, c'est dur parfois. Alors, on a eu le mariage de Jason et Mallory, et alors... Ce que j'avais reçu pour eux, c'était ce passage où Jésus va parler de construire sur le roc. Et il dira, Jésus, dans ce passage, que eh bien, celui qui est sage, c'est celui qui entend ses paroles et les met en pratique. Et parce qu'il les met en pratique, il est semblable à celui qui eh bien, construit sur le roc. Alors, qu'a-t-on mis en pratique cette année? Posons-nous cette question, voilà, dernier dimanche de l'année. Qu'est-ce que j'ai mis en pratique cette année de ce que j'ai compris et de ce que j'ai entendu dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que j'ai mis en pratique, peut-être, de ce que le Saint-Esprit m'a donné? Peut-être une pensée, peut-être, il a soufflé dans ton dos, il t'a donné quelque chose de spirituel. Est-ce que tu as mis en pratique? Pose-toi cette question 2 minutes. Qu'as-tu mis réellement en pratique? As-tu mis la parole de Dieu en pratique dans ta vie? Alors, on va lire un premier passage. Matthieu 13, verset 36, on va lire pas mal ce matin, donc accrochez-vous. Si vous avez vos Bibles, une version que vous aimez bien, prenez-la. Alors Jésus, c'est juste un passage, d'accord? Si vous voulez, vous irez lire tout le contexte. Mais Jésus vient de donner une parabole. Et ses disciples, qu'ils suivaient étaient privilégiés parce qu'ils pouvaient lui poser des questions comme ça. Parce qu'ils étaient comme tout le monde, ils entendaient, mais parfois, tout comme le peuple, ils ne comprenaient pas tout. On sait qu'une parabole est une image que Jésus va donner et qui nous donne des indications sur une réalité spirituelle. Alors Jésus parle. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. » Alors, je vous ai posé cette question. Eh bien, est-ce que notre travail cette année, est-ce que nos décisions, nos choix, ont-ils porté du fruit? Dieu s'attend à ce que tu portes du fruit. C'est quelque chose qui est largement discuté dans la Bible. On en parle beaucoup, le fruit, le fruit, le fruit. Il faut porter du fruit, le fruit de la repentance, le fruit du salut, le fruit de la justice. Tous ces fruits-là, eh bien, nous sommes appelés à les porter. Et pour qu'il y ait un fruit, il faut qu'il y ait une semence. Tu ne peux pas avoir une pousse, une plantation sans une semence. Alors là, il nous est dit clairement, Jésus, il nous explique et il dit, il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Le Fils de l'homme a semé la bonne semence. Lorsque Jésus est venu sur la terre, on en a parlé avec Élie, je ne vais pas refaire sa prédication. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Il y a une semence dans le cœur de l'homme, une semence corruptible. C'est le malin qui a semé cette semence. C'est la corruption. C'est des choses que finalement l'homme a une tendance à l'autodestruction. Tu vois, dans tes pensées, tu n'es jamais beau, tu n'es jamais bien, tu n'es jamais super, ou alors tu es dans l'ultra-orgueil. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les guerres, voilà, tout ce que vous pouvez voir d'atroce sur cette terre est issu de la mauvaise semence du malin. Et on nous dit que l'ivraie, eh bien, c'est le malin. Et il y a eu cette semence en nous. Mais un jour, Jésus, parce qu'il a fait à la croix de Golgotha, on l'a entendu, eh bien, il nous a donné le pouvoir d'avoir la victoire. D'avoir la victoire sur cette mauvaise semence. Et lorsque je dis, Jésus, viens vivre dans ma vie, eh bien, je reçois Christ, je reçois la bonne nouvelle. Et là, cette semence va commencer à porter du fruit dans ma vie. Et là, tu vas commencer à de plus en plus, eh bien, tu vas commencer à revêtir, la Bible nous dit de revêtir Christ, tu vas commencer à revêtir le caractère de Christ. Là où tu étais constamment en colère, eh bien la paix commence à s'installer. Là où tu étais fébrile, tu commences à devenir fort. Parce que c'est cette parole qui commence à agir en toi, c'est cette bonne semence. Et celui qui l'a semée n'est nul autre que Jésus. Par son acte à la croix de Golgotha. S'il n'avait pas fait ça, bah, tu vois, ce serait juste du positivisme, du conditionnement intellectuel pour essayer de vivre une belle vie. Tu vois. Mais il n'y aurait pas de transformation. Jésus, lui, nous appelle à passer des ténèbres à la lumière. C'est une transformation. Tu ne peux pas garder un peu de ténèbres et puis partir dans la lumière. C'est radical. Sandy, elle nous a dit, je vous invite à être radical dans votre vie, à retrancher les choses, à laisser ce qui est mauvais derrière. Alors, lorsque je regarde mon année 2023, et puis je regarde, oh Alex, là, tu as eu telle réaction, dans telle épreuve, tu as eu telle réaction, ça, c'est pas bon. Quand je regarde les Écritures, oui, j'ai vécu ça, oui, j'ai ressenti ça, oui, c'était peut-être juste, humainement parlant, mais ma réaction n'était pas correcte au vu des écrits bibliques. Alors Seigneur, j'ai un problème là parce que je ne suis pas en adéquation avec ce que tu dis. Et là, tu commences à parler à ton Dieu et tu dis, Seigneur, aide-moi parce que, eh bien, je suis comme Élie, le chemin est trop long. Et là, j'ai besoin de manger une nourriture spirituelle qui va me fortifier pour continuer à marcher. Mais si je n'ai pas cette nourriture-là, eh bien, je vais intellectualiser. Et si je ne fais qu'intellectualiser, bah, finalement, je suis limité et ma foi est seulement religieuse. Elle n'est pas mise en application. Et à ce moment-là, tu ne construis pas sur le roc, tu construis sur tes raisonnements. Mais tes raisonnements passeront, sauf que Jésus, lui, ne passera pas. Et ses paroles à lui ne passeront pas. Et quand il dit quelque chose, que tu y crois fermement, là, il se passe des choses fortes. 2 Corinthiens 5, verset 17. Tu as reçu Jésus. Christ vient vivre en toi, tu revêts Christ, tu commences à porter les fruits de la repentance. Tu commences à confesser tes péchés, comme l'a dit Sandy. Tu n'as pas peur, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte parce que Dieu t'a libéré. Tu n'as pas honte de témoigner parce que finalement, c'est du passé maintenant. C'est terminé. Celui qui a honte, c'est parce que ce n'est pas réglé. Ça ne veut pas dire qu'il faut le crier à tout le monde. Mais yeux dans les yeux avec quelqu'un de confiance, tu dis les choses. Et devant Dieu, devant toutes les dominations, toutes les autorités, voilà, je suis en Jésus, je me suis couvert du sang de Jésus, maintenant c'est terminé. Ah, si quelqu'un est en Christ, il est une Nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est un verset qu'on aime beaucoup dans l'intercession, parce que c'est, tu vois, c'est quelque chose de fondamental. Seigneur, les choses anciennes sont passées. Ça veut dire qu'il faut que je reconnaisse que ça, c'est pas correct. Maintenant, c'est terminé. Je me positionne pour aller chercher les choses nouvelles dans ma vie. Il y a des choses nouvelles pour toi. Le courant de la vie ne s'arrêtera pas en 2023, il ne s'arrêtera pas en 2024, il ne s'arrêtera pas en 2025. La vie continue de couler dans toi. Ça dépend que de toi, de comment tu orientes cette vie que Dieu t'a donnée. Et ça, c'est ta responsabilité. Alors, on va prendre un verset, vous allez voir, c'est intéressant. Une histoire, je vais vous donner le contexte. Si tu peux nous donner Matthieu 21, verset 18. On en a parlé à l'intercession, pour ceux qui étaient à l'intercession, mercredi. Alors, c'est l'histoire, c'est tout un chapitre à prendre dans sa globalité, d'accord? Je vais prendre quelques brides, mais c'est quelque chose qu'il faut étudier de manière globale. Ce n'est pas quelque chose qu'on sort comme ça de son chapeau, d'accord? Il y a une histoire derrière tout ça. Jésus ne fait rien au hasard. Et là, je vais prendre quelques brides de ce chapitre-là, vous allez voir que c'est intéressant. Alors, le matin, donc c'est le chapitre où Jésus va rentrer dans Jérusalem. C'était annoncé dans les écrits, les psaumes en parlent, et puis Jésus arrive et il monte sur l'âne et puis il rentre dans Jérusalem. Vous vous souvenez de ça? Ça commence, le chapitre commence plus ou moins par ça. Et ensuite, vous allez voir Jésus, il se passe beaucoup de choses autour de cet acte. Mais tout commence là. Jésus entre dans Jérusalem. Et ensuite, il va aller de Jérusalem à Béthanie et il va faire des trajets comme ça. Alors, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Jésus était déjà entré à Jérusalem, il est parti en Béthanie et il revient à Jérusalem. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Jésus a faim, il est comme toi et moi, il a des besoins. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Waouh! Jésus, il ne discute pas. Jésus, il arrive face à une situation, il dit, ça s'accomplit. Sa parole, elle est puissante quand même. Tu vois, moi, j'ai déjà essayé de marcher sur l'eau dans les piscines, j'ai du mal. Tous les chrétiens ont déjà essayé. Non? Il n'y a que moi qui est fou ici. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus, quand il parle, il se passe quelque chose. Jésus, il a faim, le figuier a des feuilles, il n'y a pas de figue, il dit maintenant ça suffit, c'est fini pour toi. Hop, il sèche instantanément. Waouh ! C'est incroyable ! Les disciples qui virent cela furent étonnés, tu m'étonnes. Moi, si j'avais vu ça, je serais étonné. Je serais plus qu'étonné, moi je serais fou. Je dirais quoi ? Pourquoi tu fais ça ? Je ne comprendrais même pas, tu vois. Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ? Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Waouh, ça tu vois, ça c'est un verset sur lequel tu peux t'appuyer. Dans la prière, dans l'intercession. Parce que là, ce n'est pas Paul qui dit que et puis machin, et ceci et cela. C'est Jésus qui parle à ses disciples, et qui me parle à moi aussi. Parce que si j'étais dans cette situation-là, franchement, j'aurais été étonné aussi. On aurait tous eu la même réaction que les disciples. Alors, pour le contexte, je vous l'ai dit, Jésus, il rentre dans Jérusalem, et on est proche de la Pâque. Je pense qu'une semaine après, ça va être la Pâque. Donc, Jésus, il fait son entrée à Jérusalem, pas pour rien. On est proche de la Pâque, il fait son entrée, il est le roi des rois. Eh bien, il y a certaines personnes qui se rendent compte qu'il se passe quelque chose, ils commencent à mettre les rameaux, là, on va appeler ça la semaine des rameaux, parce que les gens sont allés lui dresser, vous voyez, un chemin comme ça, et puis il est là sur son âne, il rentre en Jérusalem, il arrive au temple, et on nous dit qu'il va commencer à observer, Jésus va commencer à observer ce qui se passe au temple. Il va regarder. Et à ce moment-là, vous savez ce qui se passe au temple? On prépare la Pâque. Les gens viennent du monde entier, des régions alentours, ils viennent de loin, ils font de la route, et là, ils vont commencer, ils doivent faire leur sacrifice annuel, tu vois. Ils viennent là et puis il faut faire le sacrifice et puis il faut suivre la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, il faut que telle bête soit comme ceci, qu'elle soit parfaite et machin et ceci. Il faut que tu viennes avec ta propre bête. Sauf que les gens faisaient de la route et là, il y a un commerce qui a commencé à se développer dans le temple. Le temple, c'était les galeries Lafayette. Tu vois, il y avait un commerce. C'était le pèlerin venait, il pouvait acheter directement sa bête. Et puis on inspectait, il y avait ceux qui inspectaient la bête, et puis il fallait qu'elle soit parfaite, alors ils prenaient de l'argent là. Ils prenaient des grosses commissions. Ils se remplissaient les poches, tu vois, sur la loi de Dieu. Et puis après, il y avait ceux qui convertissaient l'argent, parce que l'argent, eh bien, qui était d'ailleurs, elle était considérée comme idolâtre. Donc il fallait convertir. C'était les banques. Et les banquiers, en ce temps-là, c'était des voleurs. Aussi, ils prenaient des commissions pas possibles. Et puis après, les gens étaient contents, et puis hop, tac, ils faisaient leur sacrifice, et puis ils étaient en train de, finalement, de respecter les obligations religieuses. Et voilà, et Jésus voit tout ça, et lui, ça ne lui plaît pas du tout. Il fait son entrée, quoi, c'est le roi des rois, et très peu de gens le reconnaissent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le reconnaissent. Jésus fait son entrée, et puis voilà, ça passe. Voilà, quelques personnes s'en rendent compte, mais... Aux yeux des religieux de l'époque, ça passe inaperçu, tu vois. Et il arrive dans le temple, et là, il va dire « ça suffit ». Il va dire « ça suffit ». Avant d'aller dans le temple, il va passer par ce figuier, il va voir ce figuier, et tout ça est relié, vous voyez. Il passe dans ce figuier, sachez que le figuier, c'est le symbole d'Israël, du peuple de Dieu, qui a été planté dans une bonne terre, la parole a été donnée dans une bonne terre. C'est ça le figuier. Et Jésus, eh bien, on est en avril, là, avril-mai, et puis normalement, les figuiers, eh bien, ce n'est pas à ce moment-là où ils doivent donner leurs fruits. Et la particularité, c'est qu'ils ont leurs fruits avant leurs feuilles. Et quand ils ont les feuilles, ça veut dire qu'il est mûr, le figuier. Alors Jésus, il a faim, il voit ça, il dit, ça veut dire qu'il y a un fruit. C'est-à-dire, je peux aller me rassasier. Et puis, il voit ce figuier, en fait, voilà, il y a l'allure. Il y a l'allure de, c'est le seul qui porte des fruits au milieu de tout, mais qui a des feuilles au milieu de tout, ça veut dire qu'il y a des fruits, mais il vient, il n'y a rien du tout. De loin, tu as l'impression que tu vas pouvoir te rassasier, mais en fait, il n'y a rien. Jésus dit, c'est pas possible. Et là, il va maudire le figuier. C'est le seul miracle de Jésus qui a un caractère destructeur dans la Bible. Le seul où Jésus détruit quelque chose. Ça veut dire quelque chose quand même. Suite à ça, il va au temple. Comme je vous l'ai dit, il a fait plusieurs. Et là, il se rend compte que, waouh, il se passe quelque chose là. Ils sont là de loin, le temple. Et c'est l'euphorie, c'est la frénésie religieuse. Tu as l'impression que tout le monde est là pour Dieu. Que tout le monde veut rendre gloire à Dieu, veut faire ce qu'il a à faire. Et lui, il se rend compte qu'en fait, d'extérieur, il y a beaucoup de feuillage, mais qu'à l'intérieur, c'est stérile. Alors Jésus va faire cet acte prophétique en disant, maintenant, ça suffit. On ne rigole pas avec la loi de mon Père, on ne rigole pas avec Dieu. Et puis, si vous ne portez pas de fruits, si c'est que la parole, eh bien, vous serez retranchés. Ah, ça fait mal. Ça veut dire que tout ce chapitre nous parle d'Israël, vous voyez. Tout ce chapitre nous parle du peuple de Dieu, nous parle du fait aussi que quelque part, eh bien nous, en quoi ça nous concerne? Ça nous concerne parce que nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes ceux pour qui Jésus a donné sa vie. Il a tout donné. Tu es une terre fertile. Tu es une terre fertile parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Mais parfois, tu as des grandes paroles. Cette année, je vais prier plus. Cette année, je vais voir la gloire de Dieu. Cette année, ce sera le temps des miracles. Cette année, je vais m'engager plus. Je vais donner plus de mon être pour ton œuvre, Seigneur. Et l'année passée, tu n'as rien fait. Tu vois, c'était le feuillage. Et Jésus voit ça, il dit, t'as dit beaucoup de choses. Mais je ne vois pas vraiment ce que tu as fait. Oh, moi, ça m'interpelle. Seigneur, est-ce que j'ai vraiment porté du fruit ou est-ce que c'est que du feuillage dans ma vie? Ou est-ce que c'est juste l'apparence? J'ai commencé à faire la liste et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai vu? Alors j'ai vu ça, ça c'est bien. Ça c'était Alex, ça c'était toi, tu vois? Et j'ai commencé à faire le comparatif. Et on se rend compte que, waouh, il y a tellement plus. On s'habitue à nos habitudes, notre confort. Jésus voit tout cela. Dieu, assis sur son trône, voit tout ça, il voit tout ce que tu fais. Il voit pourquoi tu t'engages dans tel endroit, pourquoi tu fais les choses. Il voit chacune des intentions de ton cœur. Mais ne vous méprenez pas, Dieu est amour, mais il est juste. Et si un jour il doit retourner les tables dans ta vie, il va retourner les tables dans ta vie. et va dire, maintenant, t'arrêtes de parler, c'est le moment d'agir. Maintenant, t'arrêtes de pleurnicher sur ton péché, là, que t'arrives pas à régler. Tu vas aller confesser ton péché, tu vas prendre autorité sur la situation et ce sera va et ne pêche plus. Ça suffit. Parce que tu es là, tu fais des arcs-en-ciel, ça suffit. Et Dieu regarde tout ça. Et il est très patient avec nous. Mais sachez que Jésus est capable de s'indigner, de dire on rigole pas avec moi. Il peut le faire. Jésus était indigné. Et voilà tous les actes prophétiques qu'il a fait. Il a séché le figuier, ça suffit. Et il arrive, il retourne les tables et il a commencé à guérir les malades. Et puis là, les responsables religieux venaient et disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il parle comme ça? Parce qu'il est le Fils de Dieu, il est le Dieu lui-même, il est le Seigneur des Seigneurs. Et on ne l'a pas reconnu. Alors ça nous interpelle. Le fruit dans nos vies. Est-ce qu'il y a un fruit dans notre vie concret, dans ma famille, dans mes relations, dans mon travail? Est-ce que je suis capable de mettre des choses en pratique? Pose-toi ces questions. Fais attention aux paroles que tu vas dire pour l'année 2024. Ah, je vais, il faudrait, je ferai. Note-le. Il ne faut pas l'oublier. Parce que les circonstances, les vents, les tempêtes vont arriver et ce que tu auras peut-être décidé, bah, ça va vite passer aux oubliettes. Seigneur, je veux plus de toi. On a fait une réunion avec la louange et tout le monde disait on veut plus. On veut plus ? J'ai dit, vous voulez plus ? Ah bon ? Ben, c'est pas moi qui vais te donner plus. C'est pas l'Église qui va te donner plus, c'est ton engagement qui va te donner plus. Ta sanctification, ton sacrifice envers Dieu qui va te donner plus. Personnellement, mais en groupe. Ah, ça change tout. Ça veut dire qu'il y a un engagement. Ça veut dire qu'il faut mettre quelque chose en pratique concrètement. C'est ça plus. Galates 5, verset 22, vous le connaissez, mais le fruit de l'Esprit de Christ qui habite en moi, c'est quoi? Ça touche mon âme. Ça touche l'homme charnel que je suis, dans mon âme, dans tout ce que je suis, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si tu as manqué de patience, les parents, là, si vous avez manqué de patience avec vos enfants, Seigneur, j'ai besoin de plus de patience. Parce que moi, je suis sous l'arbre, là, et le chemin, il est trop long pour moi dans ce domaine-là. Seigneur Jésus, j'ai besoin de plus de patience. Seigneur, j'arrive pas à me maîtriser dans tel ou tel domaine. Jésus, j'ai besoin de toi, il faut que je mette en pratique, je mets les choses en place. Je ne passe pas assez de temps avec toi, Seigneur. Bah, commence à arrêter ton abonnement Netflix et puis sois radical pendant un an et tu dis, Seigneur, eh bien, tous les temps que je passais devant ma télé, eh bien, je vais les passer maintenant avec toi. J'ai tendance à dire, vous savez, allez-y doucement, mais parfois, il faut être radical. Tu veux plus? Bah, mets en place. Et c'est dans tous les domaines. Parce que je te le rappelle, tu es une terre fertile. Et Dieu va demander, il a planté, il s'est ensemencé lui-même. L'évangile t'a été prêché, tu es une terre fertile, il attend un bon fruit de toi. Il attend un retour sur investissement. Là. Il y a des intérêts. Parce que c'est toi qui t'es engagé, il ne t'a jamais forcé. Tu as dit, Seigneur, je veux bien vivre avec toi, je te donne tout. Tu lui as dit, je te donne tout. Lui qui t'a forcé à dire ça. Hein. Et bien maintenant, il attend des fruits dans ta vie parce qu'il y a prévu des bonnes œuvres pour toi. Il y a des projets, vous le savez, vous connaissez cette parole, il y a des projets afin que vous pratiquiez de bonnes œuvres. Il y a des bonnes œuvres prévues pour vous cette année. Il y a des bonnes œuvres prévues pour toi cette année. Tu vas pouvoir t'appuyer sur les promesses de Dieu, t'appuyer sur sa parole parce que tu vas prendre une décision. Tu vas dire à Satan, maintenant tu recules dans tel et tel domaine. Maintenant ça appartient au Seigneur, c'est son règne dans ma vie et il faut que ça bouge. Et Dieu va accomplir ses promesses envers toi. C'est juste ou pas? Alors non, 2000, on n'arrête pas l'année, on ne se dit pas juste, bon, bah, tout est acheté en 2023 et puis je... Non, J'avais cette image ce matin à l'intercession qui était très claire. Je disais, Seigneur, pourquoi tu me dis ça? Et je voyais l'année, le temps qui passait comme un fleuve. Et je vous ai parlé du fleuve de vie. Ce fleuve de vie qui est déversé en toi. La parole de Dieu nous dit que, eh bien, de nous, il y aura des fleuves de vie qui sortiront. C'est comme la vie est là, la vie de Jésus est en toi. Et puis, de nous-mêmes, parfois, eh bien, on laisse les choses aller, tu vois. Et il n'y a plus de puissance dans cette vie. C'est comme si le torrent, eh bien, sortait. Et puis, il se répandait comme ça, tranquillement, sur les champs. Et il n'y a pas de puissance, tu vois. Il ne se passe rien. C'est juste, on laisse aller. Et je voyais, c'est comme si quelqu'un, il construisait des barrages, tu vois. Il construit un barrage, il canalise cette vie. Et il dit, maintenant, il y a un domaine, deux domaines, il faut que ça change dans ma vie. Hop, et puis là, il y a la puissance qui sort. Il n'est pas sur tous les fronts. Là, il faut que ça change, il faut que j'évolue dans le domaine spirituel. Je vais m'atteler à la prière pour ce sujet-là. Et là, tu vas voir que ça change. Il y a des chrétiens, ils sont partout en même temps. Ah, ils combattent pour la famille, ils combattent là-bas, ils sont dans tous les combats. Mais il n'y a rien qui bouge. Tu vois, la vie, elle est dispersée. On ne canalise pas la puissance de Dieu. Tu ne peux pas tout faire. Vous voyez, cette année, on s'est concentré sur les choses administratives à l'église. On a eu du résultat. On s'est consacré pour certains cas dans l'église. On a vu du résultat. Dans le suivi personnel, on s'est consacré sur des gens qui avaient un besoin. On a vu des résultats. Mais même Alexis, il ne peut pas tout faire. Alors on canalise, on met un barrage. Voilà, Seigneur, en 2023, il y a tout ce qui était mauvais, ça reste derrière. Et maintenant, il y a tout ce qui est bon, ça va plus loin. J'étais au parc avec les enfants et je voyais, ils ont mis des filets. Il y a le cours de l'eau qui est là, ils ont mis des filets, ça retient toutes les bouteilles. Et puis vous avez l'eau après qui est claire derrière. Et bien c'est ça qu'on a besoin de faire. On met les filets là. Seigneur, tout ce qui était mauvais, ça reste derrière. Toutes choses sont passées, je me projette vers des choses nouvelles. Et tout ce qui était bon, là où tu m'as poussé, peut-être que je ne l'ai pas vu en 2023, je veux pousser pour 2024. Il faut que ça change. Est-ce que ça te va comme programme? 2 Jean chapitre 1, versets 7 à 8. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quand tu travailles pour le Seigneur, dans ta propre vie, dans l'église, auprès des gens qui t'entourent, eh bien, il y a un fruit qui doit en sortir. Et il y en a un qui vient pour voler tout ça. Il faut se positionner, il faut faire attention à ne pas perdre le fruit de notre travail. Parfois, moi, on est là et puis on s'engage et on travaille. On avait quelqu'un aux fondamentaux et puis, c'était, vous voyez, c'était le cas, je peux parler de ton cas, Julien, c'est bon, t'acceptes. C'est le cas de Julien. Noémie, elle est arrivée et puis elle se cachait là au début et elle était chrétienne, mais enfant de chrétienne. Et elle a dit, mais moi, j'ai envie de vivre ma foi personnelle au-delà de ma famille et je vais dans l'église. Et elle se mettait là, elle vivait les choses. Elle a commencé, elle a fait le premier volume des fondamentaux. Alex, je comprends, je sais toutes ces choses-là, mais j'ai du mal à les vivre. Elle est honnête avec elle-même, tu vois. Elle me disait, je comprends intellectuellement, mais je n'arrive pas à vivre. Parce que j'ai entendu ça toute ma jeunesse, mais c'est compliqué pour moi. Deuxième volume des fondamentaux, même situation. Et là, je disais à Chanel, une semaine avant, je dis, je ne sais pas comment elle fait pour résister à ces enseignements-là sans les vivre. Parce que la foi, l'évangile est tellement radical que si tu ne le vis pas, c'est ingérable humainement. Tu t'enfuis. C'est pas supportable. Le message de l'évangile est tranchant. Et je dis, mais comment elle fait pour résister à tout ça? Et à un moment donné, on habitait encore là-bas, et je dis, Noémie, écoute, moi je ne peux pas faire plus pour toi. Il faut que tu parles. Parle à Jésus, ouvre-lui ton cœur. Mais sois sincère, écoute, tu me dis tout à moi, dis-le à lui. Tout ce que tu me dis à moi, dis-le lui. Et puis, elle arrive, ok Alex, et puis on était, je pense que c'était le lundi, et puis le dimanche matin, elle vient me voir ici, elle vient me voir. Alex, tu sais ce qui s'est passé? Et là, elle me raconte ce qui s'est passé. J'étais dans ma chambre, je priais. Et puis là, j'ai senti l'amour de Dieu pour moi. J'ai fondu en larmes, je me suis repenti. Et je veux dire à l'Église que ma vie appartient à Jésus. Et elle a témoigné devant nous tous. Ah, ça, c'est un miracle. Ah, c'est impressionnant. Sauf qu'entre-temps, chez le petit Julien, avant que ça se produise, qui lui connaissait pas Jésus. Et Noémie, elle nous dit, écoute, il y a quelqu'un, je suis très intéressé, machin, et ceci, et cela. Je dis, c'est pas vrai, Seigneur. L'Évangile grandit en elle, elle va se faire faucher par quelqu'un qui est du monde, qui veut qu'une chose, c'est avoir une femme. On connaît le monde, non ? Julien, t'étais pas mauvais, mais tu vois ? Je me suis dit, non, Seigneur, le fruit, il y a un fruit, là. Je vais pas perdre ce fruit-là, je vais me battre pour ce fruit-là. J'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait ? Machin, nanana. J'étais dans la prière, dans l'intercession, je dis, on a prié pour les enfants de chrétiens qui reviennent à toi. Elle est un enfant de chrétien, elle revient à l'église, elle veut donner sa vie à Jésus. Et là, non, ça va pas se passer comme ça. On est rentré dans la prière. Et puis le Saint-Esprit dit, tu vas le rencontrer. Qu'est-ce que je vais aller faire avec lui ? Et puis on est allé, je l'ai invité, on est allé boire une bière. Et les pasteurs, ils boivent de la bière. Oh, mauvais pasteur. Non, non, c'est pas juste. Et on a bu une bière aux trois brasseurs. Et là, je le regarde et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais lui dire ? Qu'est-ce que je vais lui dire ? Et là, le Saint-Esprit me dit, dis-lui. Alors je le regarde et je dis, Julien, tu me contestes si ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis, tu sais, Noémie, j'ai besoin de te parler de sa foi, j'ai besoin de te parler de son parcours de foi. Et je lui explique. Et je dis, sache que si tu veux te mettre avec, elle ne couchera pas avec toi avant le mariage. Je dis, le gars, c'est un gars du monde, il y a eu une vie, il va me mettre un point dans la tronche. Là, il me regarde et dit, bah, tu sais, j'ai connu beaucoup de choses, mais moi, je suis prêt à tout essayer. Parce que voilà, on a prié dans la voiture, il a été touché par Dieu et Dieu l'a sauvé. Et aujourd'hui, aujourd'hui, Julien, vous voyez ce qui s'est passé. Il y a eu un fruit chez lui. Lui-même a porté du fruit, a ensemencé. Et il y a quelques semaines, il y a trois semaines à l'intercession, j'ai dit, pourquoi est-ce que vous pouvez rendre grâce à Dieu aujourd'hui ? Et Julien, c'était le premier à lever la main. Il a dit, moi, je veux rendre grâce à Dieu parce que toute ma famille est à Christ aujourd'hui. Il y a mes parents là, il y a ma sœur. Ce que je veux te dire par là, c'est que ça se passe dans ton église. Ça se passe chez les chrétiens autour de toi. Il y a des victoires. Je pensais à Nicole et mercredi, je disais, Nicole, tu te rends compte comment tu as été un témoignage pour l'église. Tu étais là dans les défis, dans la maladie et tu étais toujours joyeuse. On t'a toujours vue joyeuse. Tu es un témoignage pour nous. Tu es un encouragement pour nous de vivre les épreuves avec la joie. Parce que il est écrit, Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours, je vous le répète, réjouissez-vous toujours. Je ne sais même pas si elle connaît ce verset, mais elle le vivait. Il faut vivre la foi. Amen. Oh Jésus, on a besoin de toi. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Tu lis quelque chose ou alors tu entends quelque chose et tu fais tes plans. Seigneur, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Seigneur, tu sais, moi j'appelle Jésus. Jésus, c'est le serrurier. Le gars, tout le monde veut qu'il ouvre des portes. C'est marrant. Hein? Seigneur, tu vas ouvrir une porte. Je fais ça et tu ouvriras la porte. Dans toutes les prières, c'est pas faux. Mais c'est un serrurier. Je dis, on l'a appelé le prince de paix, on l'a appelé le souverain sacrificateur, le prophète par excellence. Mais on ne l'a pas appelé serrurier hein, dans la Bible. Et on demande toujours à Jésus d'ouvrir les portes. Alors on a raison, frapper, machin, ceci, cela. Mais parfois il est ferme. Parfois il est ferme. Et là, il faut accepter quand il est ferme. Il ne fait pas que les ouvrir. Et il va fermer des portes dans nos vies. Et parfois, c'est à toi de tirer. C'est comme s'il fait 90%. Il te demande, vas-y, les 10% restants, c'est ta conviction. Maintenant, ferme toi-même. Ferme la porte au monde. Ferme la porte au péché. Ferme la porte aux addictions. Ferme la porte aux mauvaises pensées. Ferme la porte au jugement. Ferme la porte à toutes ces choses qui pourrissent le cœur, qui t'assèchent, qui te rendent stérile, qui ne permettent pas à ta foi de se développer. Ferme la porte à tout ça si tu veux que ta foi transporte les montagnes. Et Jésus leur a dit, vous savez ce qui s'est passé là, je vous le dis, si vous aviez la foi, vous l'auriez fait vous-même d'assécher ce figuier. Souvent on dit que c'est un peu une parabole que Jésus dit, voilà, vous transportez les montagnes. On reprend le verset, hein. Il nous dit, « Il nous dit au verset 21, comment le figuier est-il devenu sec en un instant ? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, cela se ferait si vous ne doutiez point. Il va falloir cette année qu'on chasse le doute dans nos vies, qu'on chasse toute once de doute sur qui nous sommes en Christ, sur sa parole, sur ses promesses, sur l'accomplissement de ses promesses pour nous. Parfois, tu dois ramer, parfois c'est difficile, parfois c'est dur. Et c'est ce que m'a toujours dit mon père. Il a dit, Alex, parfois tu ne peux pas avancer, mais la seule chose que tu peux faire, c'est résister, parce que le but, ce n'est pas de reculer. Tu résistes et à un moment donné, tu vas pouvoir avancer. Et ça se vérifie. On est parfois dans des difficultés, mais on regarde et on se réjouit parce que Dieu est en train de bénir mon frère. Je ne suis pas jaloux de mon frère. Hein. Il est béni, moi c'est difficile pour moi, mais je suis heureux. Je le bénis parce qu'à un moment donné, ça va être mon tour, où la grâce va couler sur moi. C'est juste ou c'est pas juste? La terre est fertile chez toi. Elle est fertile. Alors, je veux pour confirmer tout ça, Matthieu 21, verset 12 à 16, Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Ne fais pas de ta vie une caverne de voleurs, où tu viens chercher Dieu juste quand t'en as besoin, et puis tu fais ton business à côté. Ne fais pas de ta vie une caverne de voleurs, où quand tu fais ton business devant Dieu, tu vois, c'est un bel arbre, il y a des belles feuilles, mais il n'y a pas de fruits et c'est stérile. On a besoin que nos vies portent du fruit. On va chasser la stérilité dans nos cœurs. Amen. Prudence a reçu ce matin cette pensée qu'il était une question de renouvellement de l'intelligence. Alors on va prier, on va dire, Seigneur, voilà, ce matin, on te prie de renouveler notre intelligence, nos pensées. On ne veut pas construire sur nos raisonnements, mais on veut construire sur cette foi qui déplace les montagnes. On veut construire sur cette foi qui nous met parfois en péril et qui pourtant, eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Aux yeux des hommes, c'est compliqué. Mais à tes yeux, Seigneur, on est en train de construire sur le roc. Alors, Seigneur, je veux prier pour chacun d'entre nous ce matin. On a fait un peu la conclusion de tout ce qu'on a entendu ces derniers mois, les pensées principales, Seigneur, mais on ne veut pas être ces auditeurs oublieux dont tu parles. On ne veut pas être, Seigneur, ceux qui entendent, mais ne mettent pas en pratique. Tu nous as donné des avertissements. Tu nous as prévenus que si on entend, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, que ça prenne vie en lui et que cette vie coule, Seigneur, non seulement pour nous, mais pour les gens qui nous entourent. Seigneur, tu es celui qui a semé. Tu as semé, Seigneur, la vie dans nos cœurs. Par ta parole, par cette bonne nouvelle. Et cette vie, on a chanté pour plus de 1000 générations, on veut qu'elle coule. On veut qu'elle coule, Seigneur. Aide-nous à canaliser aussi nos efforts dans la vie spirituelle. Aide-nous à faire les bons choix dans notre vie quotidienne, Seigneur. On ne veut pas s'éloigner de toi. Seigneur, parfois on fait tellement de choix, on organise notre vie en fonction de nos désirs, nos aspirations, plutôt qu'organiser notre vie en fonction de toi, Jésus, en fonction de ce que toi tu désires. Seigneur, cette année, on veut valoriser ton œuvre dans nos cœurs. On veut valoriser ton œuvre dans nos vies personnelles, dans l'église locale. On veut regarder autour de nous, sortir de notre nombril et voir ta gloire chez nos frères et nos sœurs. Seigneur, tu en as béni beaucoup ici, Seigneur Jésus. Tu as manifesté ta gloire, Seigneur, dans certains foyers. Et Seigneur, on ne veut pas être jaloux, Seigneur. On brise la jalousie. On brise le jugement, Seigneur. Et Seigneur, on s'inspire les uns des autres en profondeur. C'est même plus qu'inspirer. J'aime pas ce mot-là, Seigneur. On prend les autres comme modèle. Quand quelqu'un a réussi quelque chose, on le prend pour modèle. Parce qu'il a réussi à mettre sa foi en action là où moi, j'arrivais pas. Jésus, Seigneur, nous sommes ton peuple, une église, Seigneur, que tu aimes. Seigneur Jésus, tu aimes tes enfants. Et je crois que tu veux faire des grandes choses. Amen.